On joint maintenant François Larochelle, ex-diplomate canadien. Bonjour, Monsieur Larochelle.
Bonjour, Madame Denis.
Merci d'être là. Vous nous parlez aujourd'hui de l'ONU, qui est l'Organisation des Nations Unies, qui a 75 ans cette année. Rappelez-nous d'abord les circonstances de sa création.
Écoutez, les Nations Unies ont été bâties, en fait, sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale. La Charte des Nations Unies a d'abord été élaborée à San Francisco au printemps de 1945. Elle a été signée en juin 1945. Et finalement, elle est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Alors, à peu près, là, on est quasiment jour pour jour,
ouais.
75e anniversaire donc de la mise en entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies.
Et la grande question, est-ce que l'ONU est encore pertinente, est encore utile?
Il y a beaucoup de gens qui se posent la même question. Ceci dit, moi, je vous dirais que comme les problèmes internationaux actuellement ne se limitent pas qu'à certains pays, que des questions comme le changement climatique, les guerres, les réfugiés ou la pandémie, on doit agir de façon multilatérale, on ne peut plus agir de façon bilatérale ou unilatérale, bien sûr, et qu'il y a d'autres organisations aussi qui s'occupent de sécurité internationale. Il y a le G7, il y a l'OTAN, mais il n'y a que l'ONU qui rassemble tous les États du monde et qui est vraiment la seule organisation qui est internationale. Elle possède en fait deux avantages ou deux attributs fondamentaux. D'abord, sa charte est juridiquement contraignante, c'est-à-dire que les États doivent la respecter et la respecter de façon légale et au niveau du droit international. Mm-hmm. Et bien sûr, a prééminence sur l'usage de la force. Et donc, à mon avis, après 75 ans, l'ONU, c'est encore le socle de l'ordre et de la coopération internationale.
Mmh, c'est bien dit, le socle de l'ordre et de la coopération internationale. Est-ce que l'ONU est capable encore de régler les conflits?
Si on se fie, disons, au dernier grand conflit, on pourrait se poser la question, parce que quand on se rappelle, je ne sais pas moi, la Syrie, les guerres en Syrie, la guerre au Yémen, on pourrait dire, effectivement, l'ONU est incapable d'intervenir de façon concrète ou adéquate. Le problème actuellement, c'est les chicanes ou les désaccords entre les membres permanents du Conseil de sécurité, qui sont, pour un rappel rapide, qui sont les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Alors, comme jusqu'à souvent dans certains dossiers, il n'y a pas consensus de ces cinq pays. Un d'eux décide de se prévaloir de son droit de veto et ça bloque les avancées et ça bloque les progrès vers la paix dans certains dossiers.
Parce que ça prend l'unanimité.
C'est-à-dire qu'au niveau du Conseil de sécurité, ça prend la majorité des voix. Le problème, c'est que les cinq membres permanents, eux, ont un droit de veto.
Oui.
Et par exemple, dans le cas de la Syrie, la Russie a systématiquement utilisé son droit de veto pour bloquer, pour protéger le régime de Bachar el-Assad. Dans un autre dossier, par exemple celui d'Israël, les États-Unis systématiquement utilisent leur droit de veto lorsque des projets de texte ou de résolution qui ne font pas l'affaire des États-Unis ni d'Israël, alors les Américains interviennent et exercent leur droit de veto. Il y a eu des chicanes entre la Chine et les États-Unis quand il est venu le temps d'obtenir des textes ou des résolutions au Conseil de sécurité au sujet de la pandémie. Alors, il y a plein de dossiers comme ça où il y a un degré de blocage au Conseil de sécurité qui paralyse en fait le Conseil de sécurité. Mm-hmm. Et si ça continue, ce qui risque de se produire, c'est que le Conseil de sécurité va perdre de sa légitimité. Et donc, des pays vont refuser d'appliquer des décisions du Conseil.
Mais François La Rochelle, est-ce que ce serait possible de réformer le Conseil de sécurité?
Ça serait idéal, mais c'est quasiment impossible. Il y a eu des tentatives, mais moi, je me rappelle, quand j'étais encore à l'étranger, il y avait eu toutes sortes d'efforts pour renouveler, pour trouver des moyens de renouveler ou d'améliorer le travail du Conseil de sécurité. Mais le problème, c'est que, évidemment, ceux qui ont le droit de veto ne veulent pas le perdre. Mm-hmm. Et s'oppose à ça. Et il y a des pays comme l'Allemagne, le Japon, l'Italie. Il y a plein de pays qui voudraient être membres, bien sûr, du Conseil de sécurité. Il y a l'Afrique aussi. Mais jusqu'à maintenant, c'est impossible de trouver un compromis pour pouvoir changer et même améliorer le travail du Conseil de sécurité. Donc, on est dans le statu quo et ça n'aide évidemment pas, ça n'aide pas l'image non plus des Nations unies.
Et, allez-y.
Mais la grande question aussi, c'est même si on changeait, ou mettons, si on ajoutait des pays au Conseil de sécurité, si tous ces pays-là n'étaient pas prêts de coopérer davantage, ben ça ne changerait pas grand-chose. Les Nations unies sont efficaces si tous les pays décident de coopérer entre eux, et c'est clairement pas le cas actuellement. On vit dans un monde de plus en plus divisé. Et puis, donc, trouver des consensus et des compromis devient de plus en plus difficile.
Et l'ONU coûte cher, mais ça, je ne sais pas si c'est dans les préjugés. Est-ce que c'est vrai que l'ONU coûte très, très cher?
Non. C'est un des thèmes ça, de l'administration Trump, là, que les Nations unies coûtent trop cher. Mais cette critique-là, franchement, ne tient pas la route. L'administration, la bureaucratie de l'ONU à New York est très petite et on dit par exemple que son budget et son nombre d'employés correspond à celui des services de police et d'incendie de la ville de New York.
Okay.
Pour une organisation qui doit s'occuper du monde entier.
Oui.
Là, bon. Et le budget de fonctionnement des Nations unies est de 5 milliards de dollars. Le budget du Québec, c'est 121 milliards de dollars.
Oui.
Le budget des Nations unies pour les forces de maintien de la paix sont de 6,8 milliards de dollars. Et le monde, chaque année, ou du moins l'an dernier, a dépensé 2 trillions de dollars en dépenses militaires.
Beaucoup de zéros, ça. Des trillions, c'est quoi?
C'est au-delà des millions, là. Je pense que c'est 3 chiffres après le million. Ça commence à faire beaucoup d'argent.
Beaucoup de milliards.
beaucoup de milliards.
Oui, oui.
Et des millions de milliards. Et puis, évidemment, ça n'a rien à voir avec le petit 6,8 milliards
non.
pour les forces de maintien de la paix. Ça, mm-hmm. ça coûte beaucoup plus cher de faire la guerre que de faire la paix.
Ah, je retiens ça. Ça coûte beaucoup plus cher de faire la guerre que de faire la paix.
Bien sûr, évidemment.
Alors, faisons la paix au plus vite.
Tout à fait.
Et en conclusion, si l'ONU n'existait pas, est-ce qu'il faudrait l'inventer?
Il faudrait l'inventer. Écoutez, il y a une chose dont on parle peu aussi, c'est le travail que font des organisations comme l'Organisation mondiale de la santé, là, qui est impliquée jusqu'au cou là, dans tous les dossiers reliés à la pandémie, le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations unies. Sans ces organisations-là, le monde serait dans une situation, notamment les pays en voie de développement, serait dans une situation bien pire qu'elle l'est actuellement. Et je vous dirais que ça tombe bien un peu l'anniversaire, soit le 75e anniversaire, parce que depuis quelques semaines, il y a eu des succès. L'ONU a connu des succès qui ont été un peu mentionnés dans les médias, mais à mon avis, pas suffisamment. Il y a par exemple le Programme alimentaire mondial qui a reçu le prix Nobel de la paix pour cette année. Il y a eu des efforts des Nations unies. Il y a des efforts des Nations unies qui datent depuis plusieurs années en Libye, qui viennent de récolter un succès en réalisant un cessez-le-feu permanent. Et ça permet aux espoirs de paix de revenir dans ce pays-là. Et finalement, il y a eu un traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui avait été approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies en juillet 2017. et qui vient d'entrer en vigueur parce qu'ils ont eu le nombre suffisant de pays pour le soutenir. Et donc, ce traité-là, maintenant, est appliqué. Bien sûr, malheureusement, les principaux pays nucléaires ne sont pas liés, n'ont pas voulu se lier à ce traité-là, mais ceci dit, ça crée, disons, comme on dit dans le langage du hockey, un momentum qui est très encourageant, je pense.
Mais tant mieux.
Pour l'avenir de l'ONU. Et donc, c'est un 75e anniversaire. Et ceci dit, l'organisation continue d'essayer de s'améliorer. Et puis, j'espère qu'on va pouvoir au moins se rendre au centenaire de l'organisation. Peut-être pas nous, mais en tout cas, peut-être pas moi, mais au moins l'organisation.
Ben, François La Rochelle, ex-diplomate canadien, c'est toujours un plaisir. Merci d'avoir parlé de l'ONU qui célèbre cette année, on le rappelle, ses 75 ans. Merci.
Ben, c'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Au revoir.